sommes très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au mercredi 28 août 2024 et il sonne 11h sur votre radio. Et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre ainsi. Nous sommes au troisième numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco Vitogbe Tomega est à la mise en onde. Je suis au micro Pascal Losso. Comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde entier grâce à nos radios partenaires et également à nos plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oublions pas, nos radios partenaires sont avec nous, nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous savez très bien que c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Gadiel Tsonadi est là. Bonjour Gadiel.
Pascal, bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Et
ça fait plaisir de retrouver cette voix. C'est vrai que on comprend tout simplement que la relève est bien assurée avec Abel qui vient ces derniers temps.
Tout à fait. Donc on est là pour l'information santé, pour nous tous.
Pour nous tous. Pour nous tous, bien sûr. Puisque nous avons besoin tous ensemble d'être en bonne santé, et vous faites bien quand même de parler, d'avoir même un journal thématique, et avec ce journal thématique, vous parlez plus alors des pathologies, des maladies que nous traînons pratiquement chaque jour. Et il est très important de prendre des dispositions pour, en quelque sorte, être en bonne santé.
Tout à fait. Donc, c'est un journal de promotion de la santé, comme on le dénomme. Donc, c'est pour nous éveiller, hein, parce que nous ne sommes pas toujours conscients de notre santé. Donc, il faut nous éveiller. Il faut qu'on soit au courant d'un certain nombre d'informations qui nous mettent en relation avec notre santé. C'est absolument important pour éviter un certain nombre de choses. Vous savez, chez nous, dans nos pays en Afrique, on meurt pour des causes évitables. Et des causes évitables, surtout par l'information et l'éducation. Donc, c'est pas du tout bien. Donc, il faut s'informer pour s'éduquer. Avoir l'information, car l'information vous donne le pouvoir d'agir sur votre santé.
Et donc, celui qui a dit que l'ignorance tue n'a pas tort quand même.
Pas du tout. En tout cas, il n'a pas encore tort jusqu'alors.
Jusqu'alors. Peut-être qu'il n'aura jamais tort.
On verra bien.
Alors, Estelle Kudzono aussi est là. Estelle, je sais que tu vas bien. Déjà, quand je vois le sourire, ça me démontre combien de fois vous allez bien. Estelle, bonjour.
Bonjour Pascal. Le sourire peut cacher beaucoup de choses.
Bon.
Bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que tu as bien démarré la semaine.
Oui, ça va. Je suis en bonne santé. C'est pas comme on le souhaite, mais quand la santé y est, on rend grâce et le reste, on se démerde.
Tout à fait, c'est très important. Alors, oui, Gadiel, c'est vrai que votre journal est dans le kiosque hein, ce matin. J'aurais bien parlé alors du journal santé, éducation et vous traitez des sujets inhérents à nos santé ou à notre bonne santé. Et donc, vous parlez d'abord ce matin alors de caillots sanguins et vous écrivez conseils et remèdes. Et à la une, je vois deux pieds hein, qui sont gonflés. Vous avez la photo alors de deux pieds qui sont gonflés. Alors, qu'est-ce que c'est quand on parle alors de caillots sanguins?
Bon, les caillots sanguins, c'est un phénomène naturel. Au départ, qui est en tout cas un phénomène créé par Dieu, hein, parce que c'est lui qui a fait le corps humain, pour résoudre un certain nombre de problèmes de fuite de sang au niveau de l'organisme. Donc, le caillot permet de boucher cette fuite-là et voilà, pour éviter un certain nombre de dégâts. Mais si le caillot se forme au niveau des vaisseaux sanguins et que cela constitue une obstruction à la bonne circulation du sang et surtout aussi de l'oxygène, là on est en face d'un cas clinique et très souvent il y a des signes, hein, il y a des gens qui vous pouvez voir, là, vous avez vu la photo, en tout cas la photo à la manchette, c'est... Oui. deux pieds, les deux pieds qui sont gonflés. Donc cela peut être le signe d'un caillot hein, quelque part. Et très souvent, le membre est enflé et puis il y a une douleur à un endroit, une douleur vive, que ce soit au niveau des membres inférieurs comme supérieurs. Et quand il y a un caillot de sang dans un vaisseau sanguin, et à l'approche du cœur, on peut parler de l'infarctus. Donc, le sang ne circule pas bien vers le cœur, donc il y a un problème. Ou bien au niveau du cerveau, là, on parle d'un AVC.
Alors, Gadiel, ça veut dire que si nous remarquons déjà ces symptômes, c'est-à-dire des pieds qui s'enflent, automatiquement, ça doit nous faire penser justement à quelque chose comme cela, c'est-à-dire caillot de sang.
Vous savez, il y a des symptômes sur le corps humain. Quand on les voit, il faut rapidement aller au niveau d'un centre de référence. Vous avez des pieds qui s'enflent. Ça veut dire que déjà même, on peut parler de la rétention d'eau. Est-ce que vous voyez? Donc, les pieds qui s'enflent, c'est pas normal. Hein? Vous avez le cœur qui bat. Vous êtes essoufflé. Vous avez le vertige. Il y a des signes qui doivent vous alerter à aller voir rapidement un spécialiste. Est-ce que vous voyez? Donc, les pieds qui s'enflent, ce n'est pas du tout normal. Vous n'êtes pas né avec des pieds enflés.
Non.
Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il faut aller voir un spécialiste. Et très souvent, nous recommandons d'aller voir un spécialiste, aller dans un CHU, mais dans une clinique spécialisée pour une prise en charge, parce que là, vous êtes dans une situation où on peut vous prendre rapidement en charge. Mmh. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important de connaître le phénomène. Et il y a des personnes qui sont à risque. Face à ce genre de caillot de sang qui peut vous causer un dégât. Si vous êtes un hypertendu, si vous êtes un diabétique, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous êtes en surpoids, vous êtes obèse, il faut vraiment suivre votre santé et puis suivre votre alimentation, faire l'exercice physique et puis voilà, écoutez bien votre corps pour ne pas être surpris. Vous voyez, très souvent il y a des gens, vous voyez là, et puis il y a des problèmes, il y a une crise, on doit le prendre rapidement, sûrement que la personne a eu des signes au départ.
Et peut-être des signes qu'il a dû négliger.
Il a dû ignorer parce qu'il ne sait pas que ce sont des signes avant-coureurs d'un patatras qui va se passer. Donc, c'est très important de lire cet article sur les caillots de sang. Vous vous rappelez, pendant la COVID, on a parlé de cette histoire d'embolie pulmonaire. Vous vous rappelez?
Oui, je me rappelle
c'est
bien.
C'est dans ce sens-là toujours. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent conduire à cela, un certain nombre de traitements. Donc, c'est un cas assez sérieux que nous devons lire et faire extrêmement attention. Maintenant, il y a des remèdes, hein, il y a des remèdes naturels. Quand on est hypertendu, quand on est diabétique, quand on a des problèmes cardiaques, quand on est obèse, on est en surpoids. Plusieurs personnes sont en surpoids au Togo, hein, plusieurs personnes. Donc, il y a des thés, il y a des tisanes, il y a des infusions qu'on peut faire à la maison qui peuvent nous aider, en tout cas, dans ce sens-là.
Gazelle, vous vous intéressez toujours hein, à ce sujet où vous parlez de deux organes hein, qui sont le cœur et le cerveau. Et vous écrivez cœur et cerveau, limitez les aliments frits.
Absolument. Vous savez, aujourd'hui, à Lomé, c'est la mode. Hein, au niveau des jeunes, au niveau des adultes, tout le monde consomme les frites. Ah, mais Pascal, comprenez, on prend seulement un aliment, l'igname par exemple. Hein? L'igname, quand vous découpez l'igname est regorgé d'eau, hein? Il y a l'eau et puis l'igname a des vitamines, des sels minéraux. Et ça, vous voyez. Quand vous mettez l'igname dans de l'huile, qu'est-ce qui se passe? L'huile se remplit l'igname. Est-ce que vous voyez? Et absorbe même l'eau. Donc, ça veut dire que les éléments nutritifs et tout, ça diminue. Donc, vous consommez plus, peut-être à 80%, rien que de l'huile. Rien que de l'huile, est-ce que vous voyez? De l'huile surchauffée, très raffinée. Et ce n'est pas toujours bon pour un certain nombre de parties de l'organisme. Donc, quand on fait des frites, il se développe, en tout cas c'est des preuves scientifiques, hein, il se développe un certain nombre de substances toxiques dans cette friture là qui peuvent rentrer dans le sang et empoisonner un certain nombre d'organes dont le cœur, le cerveau, les reins, donc le foie. Et c'est très important de comprendre cela parce que aujourd'hui dans nos villes africaines, il y a des gens qui consomment le matin les frites à midi, ils sont frites. Le soir, ils sont frites grillées. Donc, ce qui fait que vous allez voir que dans l'âge, il y a des problèmes de santé. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas dit de ne pas consommer les frites. Déjà, même à 30 ans, 5 ans, homme comme femme, on doit commencer par réduire la consommation des frites. C'est les scientifiques qui le disent pour notre santé, surtout la santé du cœur et du cerveau. Vous savez, les maladies qui atteignent ces deux organes sont terribles. C'est très difficile au niveau de la prise en charge, au niveau des coûts. Donc, un article aussi important que nous recommandons à nous tous.
Et justement, un article très important hein, que nous recommandons à nous tous. Et vous avez bien chuté hein, tout de suite alors sur le fait que des maladies de cœur arrivent et des symptômes quand même que nous retrouvons finalement et nous devons quand même, qui nous, doit normalement nous alerter. Et vous parlez de maladies de cœur et vous écrivez symptômes à surveiller. Il y a des symptômes à surveiller, bien sûr.
Absolument. Vous savez, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est dans plusieurs pays, il y a un revirement de situation. Hein. Les maladies infectieuses comme le paludisme et autres, aujourd'hui, c'est les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques. Quand vous allez en consultation dans les hôpitaux, c'est plus cela. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est important que l'information passe. Quels sont les signes quand on a des problèmes de cœur? Est-ce que vous voyez? On a des problèmes cardiaques. On peut citer un certain nombre de signes ici. D'abord, il y a l'essoufflement. Vous voyez, quand vous arrivez à Canal FM, l'escalier qu'on grimpe très souvent, quand vous le grimpez, vous tenez le mur, ce qui est un problème chez vous. Est-ce que vous voyez? Ce qui est un problème chez vous. Donc, c'est parce que ce n'est pas grand, ce n'est pas long, on peut le dire ainsi. Donc, ceux qui font un petit effort et qui s'essoufflent à la normale, c'est qui doit commencer par avoir un problème cardiaque. Donc, c'est des choses qu'on doit connaître. Et puis, il y a des douleurs au niveau de la poitrine. Vous sentez qu'il y a une douleur dans la poitrine, mais vous avez des vertiges. Des vertiges qui viennent d'un seul coup. Des fois, vous avez l'impression de trébucher. Ces signes, ce ne sont pas les paracétamols ou bien les dimeblés qui font ça à la maison. Donc, il faut aller rapidement voir un spécialiste pour une prise en charge. Donc, c'est une alerte pour nous tous. Hein? Les signes au niveau des problèmes de cœur, c'est très important, très sérieux. On doit prendre ça au sérieux.
On doit prendre ça au sérieux. Vous vous intéressez également au don du sang et vous écrivez éthique alors du don du sang, garantie, sécurité, et équité et dignité des donneurs et des receveurs.
Oui, vous savez, au niveau du centre national de transfusion sanguine, le travail se fait avec acharnement là-bas et nous récupérons un certain nombre d'informations que nous publions pour nous tous, hein, parce que le don de sang, ça concerne nous tous. Quand on vous appelle, que vous avez un parent malade, vous l'amenez à l'hôpital et le médecin prescrit les ports de sang, c'est là-bas que vous tombez dans une aventure qui est incertaine, est-ce que vous voyez? Et très souvent, les gens vont au niveau de CNTS chercher les ports de sang et on prend en charge leurs parents, ils sont guéris, rentrent à la maison. Mais demandez si dans leur famille il y a un donneur. C'est des gens qui sont allés donner, des gens qui sont allés faire des dons de sang, est-ce que vous voyez? Donc c'est très important que nous pensions à cela. Cet article, c'est pour dire que en matière de dons de sang, nous tous, nous devons nous lever parce que nous sommes égaux et nous serons forcément peut-être un jour des receveurs. Est-ce que vous voyez? Donc, dans nos familles, faisons passer le message. Actuellement, pendant les vacances, il y a pénurie de portes de sang quand vous allez au CNTS. Pourquoi? Parce que la cible qui donne plus, c'est pendant les vacances. Est-ce que vous voyez?
Tout à fait.
Donc, qu'est-ce que les autres font? Dans la population, allons faire des dons de sang pour sauver des vies humaines. Le message doit passer, s'il vous plaît. Chaque jour, il faut que les gens se rendent au niveau de CNTS pour prendre des informations et faire des dons de sang pour sauver des vies humaines. Peut-être même nos propres vies.
Tout à fait. Ça doit être dans notre habitude, hein. Et du moins, ça doit constituer un réflexe pour nous tous d'aller faire le don de sang parce que vous l'avez si bien dit, on ne sait jamais ce que demain nous réserve. On peut être également des receveurs de son demain.
Il y a un phénomène. Quand les gens vont au niveau de CNTS, ils disent, bon, oui, il y a des pots de sang, même nous, on ne doit pas donner parce que nous sommes moins nantis, nous ne sommes personne. Non. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. On ne peut pas vous en trouver parce que ça ne se fabrique pas.
Tout à fait.
Est-ce que vous voyez? Puis sur le Togo, un problème, c'est l'insuffisance. Il y a une insuffisance. Donc, une pénurie. Donc, nous devons tous nous lever pour résoudre ce problème.
D'accord. Gadiel, merci d'être passé. D'abord, si nous voudrons avoir votre journal en papier, en version PDF, quelles sont les démarches à mener?
En papier, dans les pharmacies, dans les kiosques, à 1000 francs. Et puis, sur le site internet www.santeeducation.pg, à télécharger à 500 francs. C'est très facile de le faire.
Gadiel, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission Club de la Presse. Et c'est chaque mercredi. Nous parlons, bien sûr, santé. Nous sommes rejoints par d'autres confrères journalistes. Thiaboré Ibrahima, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, et bonjour aux confrères ici présents, bonjour aux auditeurs, bonjour également aux auditrices qui nous suivent en ce moment.
J'espère que les champs ont commencé par donner des produits.
Rapidement, heureusement pour nous, je dis heureusement parce que ces derniers temps, on a eu la pluie.
Oui.
Et dans le Grand Nord, c'est ce qu'on attendait. On dit merci à Dieu et on espère que le reste du temps qu'il faut pour que les produits puissent arriver à maturité, ça va nous permettre quand même d'avoir ce qu'il faut pour que dans le mois de septembre, comme vous le savez, c'est la grande fête des ignames pour le grand bassard, comme vous le savez, c'est le grenier de la Bakoua et autres. On espère que les mânes de nos ancêtres et Dieu feront en sorte que nous ayons cette quantité d'ignames pour que tout le monde puisse aller s'approvisionner dans le grand bassin.
Alors, je suis en train de voir Sylvestre sourit quand tu parles. Et peut-être dans sa pensée, je lis quelque chose comme c'est qui ce journaliste paysan ou ce journaliste
pour qui me connaissent, pour qui me connaissent, ils savent que je suis quand même fan de la terre. Et puis, il y a beaucoup de nos confrères également qui sont dans le domaine. Ça, je vous le dis, peut-être que les gens ne le savent pas. Mais au-delà de tout, c'est pour vous dire que la terre ne trompe pas. Et tout le monde peut faire ça. Et quelle que soit votre activité, et tout le monde peut faire ça. Donc, si les gens ont besoin quand même des conseils, et les confrères surtout, ils ont besoin des conseils, comment faire pour y arriver. C'est difficile, mais c'est facile aussi.
Et vous faites même d'ailleurs la production du bon miel. Et justement, ça aussi, c'est encore très intéressant.
Justement, un bon miel que vous pouvez trouver à moindre prix. D'accord. Ce n'est pas la publicité, mais que tous ceux qui veulent, c'est le bon miel. Ça vient de Tchamba, c'est une ferme. C'est moi-même qui produis, ce n'est pas quelqu'un. Et donc, ça veut dire que c'est un miel qui est propre. Et que vous pouvez le trouver. Il est pur.
D'accord.
Vous pouvez le trouver.
Sylvestre Béni, bonjour. Après notre émission, on doit partir peut-être alors pour aller vers la terre.
Oui, il y a quand même une image qui m'est venue. Je l'ai vue une fois dans sa ferme. C'est l'image là qui m'est venue. Donc c'est quand même un bon. Il fait du bon miel, ça, il faut le dire. Donc au-delà donc de la plume, du micro et. Il est souvent dans sa ferme. Je crois que c'est un bon signe. Mais très souvent aussi, en montant l'escalier de Calais, la ferme tient souvent les murs. Donc, je crois que
le
message de Gadiel, il faudrait quand même qu'il puisse en penser.
Je ne suis pas le seul. Hein.
D'accord. Abassi, Isaka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et autrices de la radio Canal FM qui nous suivent en ce moment. Avec les petites difficultés, je crois que les gens n'arrivent pas à nous capter depuis quelques temps.
Tout à fait. Nous l'annoncions dans notre émission hier.
Tout de suite, en venant dans la voiture même. Ça ne verrait pas.
Effectivement, il y a des gens qui ont des difficultés à nous capter. C'est par rapport surtout à un problème technique. Il y a nos techniciens qui sont à pied d'œuvre actuellement. Il y a des gens, bien sûr, qui sont sur nos pylônes. Alors, pour rapidement régler ce problème, tout compte fait, des gens nous suivent alors partout dans le monde et aussi sur
les applications
OTIA et aussi www.canalfm.com et d'autres applications aussi. Et même d'ailleurs, les radios en ligne arrivent à diffuser cette émission. Alors, Abbas, c'est toujours commandant.
Oui, en attendant, c'est toujours commandant. Il faut prendre des années avant de prendre
depuis
le grade de colonel.
Il faut évoluer.
Son grade là, le
volume.
Parce que les gens sont jaloux de mes acquis, je vous fais jouer.
Alors, ça va bien. Je pense que cette ambiance arrive à bien démarrer l'émission. Et ça fait toujours plaisir d'être avec vous comme cela pour parler de l'actualité. Nous savons bien également amuser la galerie. Et c'est ce que nous venons alors de faire. Et maintenant, nous allons être plus sérieux
surtout
en parlant de la politique. Justement, surtout d'être avec une dame, les dames sont à l'honneur, vous le savez très bien, et donc SL ne va pas me dire le contraire, SL, les dames sont souvent à l'honneur.
C'est vous qui le dites.
Ah d'accord, d'accord, alors nous commençons l'émission de ce matin avec ce sujet alors de ce kidnapping ou de l'enlèvement de cet activiste béninois surnommé Frère Mouvi. Et on se souvient, c'est depuis le 12 dernier qu'il a été kidnappé ou enlevé, selon les mots même d'ailleurs du procureur de la République. On parle alors d'un kidnapping. Il y a la manchette qui est revenue sur le sujet aujourd'hui. La manchette, vous écrivez: kidnapping d'un activiste béninois au Togo, du grand banditisme de l'État béninois, dénonce les OSC Togo. D'autres journaux également sont revenus sur le sujet. Il y a le Triangle des Enjeux qui revient sur le sujet. Le Triangle des Enjeux qui titre « Affaire Frère Mouvi, des OSC dénoncent un acte de provocation d'État et interpellent l'Union africaine et la CEDEAO ». Autre journal qui parle bien sûr alors de ce sujet, je vais voir déjà autre journal. Voilà, alors c'est le journal Le Messager. Le Messager qui titre à sa une: enlèvement de Steve Amouzou à Lomé, deux arrestations et des mandats d'arrêt émis. Plusieurs personnalités béninoises dénoncent les dérives autoritaires du régime Talon. Alors, d'abord, Tchabore, quand on prend ce sujet, déjà quand on a commencé même par écouter parler de ce sujet déjà sur les réseaux sociaux, on n'en croyait pas. Peut-être on se disait, mais écoutez, comment se fait-il que déjà un Béninois qui a été saisi ici ou qui a été arrêté ici à Lomé et sans que les autorités togolaises ne soient informées, est-ce que ce n'est pas bizarre ça?
Non, je crois que je suis parfaitement d'accord avec vous. Et Pascal, lorsque cette affaire a explosé sur les réseaux sociaux, en tout cas moi particulièrement, j'ai pensé que c'était un règlement de compte entre amis, ça il faut le dire.
Entre amis.
C'est ce qu'on on y a pensé. Mais à un moment donné, lorsque, à travers le communiqué du procureur et après les informations qui s'en sont suivies, je pense que on a compris qu'il y avait même des personnalités béninoises. Lorsque je parle de personnalités, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est responsable, chargé de la sécurité au Bénin et qui faisait partie, selon les mots du procureur et du communiqué, qui faisait partie du gang. Moi, j'appelle ça un gang. Oui. Qui faisait partie du gang qui est venu enlever comment l'appelle-t-on?
Steve
Amouzou. Donc, je pense que c'est très délicat. Et moi, j'ai apprécié la sortie des OSC ici. Et vous avez vu dans mon article ce que j'ai dit, non seulement des OSC au Togo ici qui ont dénoncé cet état de fait, mais également il y a des personnalités béninoises qui ont également dénoncé cet état de fait. Parce que c'est très dangereux. Moi, je simule ça à une provocation. Parce que dans ce genre de choses, d'abord, le communiqué du procureur l'a dit, je pense que c'est entre États que ça se traite. Parce que nous connaissons le statut de Steve Amouzou ici. Et c'est entre États que ça se traite. Mais cela n'a pas été fait. Des gens se sont, les bandits se sont organisés et ils sont venus enlever le Steve Amouzou pour créer des problèmes. Vous avez vu depuis un certain temps ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Je ne sais pas si les uns les autres ont écouté ce que nos confrères béninois disent là-bas, de l'autre côté. Mais je pense que ça, c'est ce qu'on appelle du banditisme d'État. Et d'abord, lorsque je relevais ce que les autorités béninoises ont eu à dire, ils l'ont dit. Ils ont dit que depuis que Talon est arrivé, je pense qu'il y a un certain nombre de faits qui posent problème dans le vivre ensemble entre États, interétatiques. Et vous l'avez vu ce qui se passe avec le Niger, vous avez vu ce qui se passe avec le Burkina. Donc, ça veut dire que le monsieur, je ne sais pas. J'ai fait, d'abord, il y a quelqu'un qui a, dans mon papier, qui a fait une opinion, qui a dit effectivement que Talon est un danger pour la fonction présidentielle au Bénin. Et ça, j'invite les gens à le lire. C'est une réflexion qui est très profonde. Et quand il le dit, il a pris un certain nombre de faits par rapport non seulement au Togo, mais également dans d'autres pays de la sous-région. Et quand vous avez vu depuis, Talon, le Bénin, en tension avec plusieurs pays de la sous-région. On se pose la question pourquoi. Ça veut dire que quand c'est comme ça, c'est celui qui a la tête qu'il faut accuser. Et je pense que ce genre de comportement, c'est vrai, au Togo, nous sommes pacifiques. On sait Les Béninois, ce sont des frères. C'est le colon qui est venu, excusez-moi, nous diviser. Mais je pense que les Béninois doivent savoir prendre ce problème, le temps qu'on puisse avoir en profondeur, comment on est arrivé à venir sur le territoire togolais pour prendre quelqu'un qui était en réalité protégé. Parce que, selon les informations, à moins que je ne me trompe, Steve Amouzou doit avoir un carte de réfugié, je ne sais pas, ou bien il est protégé, je ne sais pas si c'est vrai ce que les autres ont dit. Mais au-delà de tout, je pense que l'acte qui a été posé, c'est du gangstérisme d'État. D'accord. Et il faut l'assimiler comme tel.
D'accord. Alors, Sylvestre, moi, ce qui me dérange, c'est que quand on prend des gens qui sont partis du Bénin, ils ont franchi nos frontières, ils sont venus ici et ils ont arrêté quelqu'un et l'ont amené au Bénin et l'ont déposé en prison de l'autre côté. Et que finalement, la sécurité au niveau du Togo n'a rien su, ou le renseignement n'a rien su. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un peu facile, ça?
Oui, ça a l'air facile. Ça a l'air facile. Mais avant donc de revenir à et du moins ça à la question, je crois qu'il faut apprécier aussi l'acte, parce que là je rejoins mon confrère quand il parle de gangstérisme d'État. Et j'ai pris hier j'ai pris quelques minutes pour feuilleter un peu ce que nos confrères écrivent de l'autre côté. Je crois qu'il y a bon nombre qui sont unanimes en disant que depuis l'arrivée du Talon, ils disent que ils sont devenus donc un État voyou. C'est les confrères de l'autre côté qui le disent. Et il y a un qui est même allé plus loin en disant qu'ils ont honte aujourd'hui, hein, de cet acte-là posé par l'État béninois. Parce que lorsque vous avez même des personnalités de haut rang, hein, parmi ces gangs-là, c'est des gangs, je crois qu'il faut utiliser les termes. C'est des gangs, c'est des brigands, c'est des voyous qui sont venus donc poser cet acte-là. Et donc, lorsque même parmi eux, un haut responsable de l'État béninois est parmi ce gang-là, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour dire que ce sont des voyous. Ce sont des voyous. Et on aurait quand même les arrêter. Si on a pu les arrêter, normalement, ils devaient au moins goûter un peu le Togo. Maintenant, je reviens un peu sur le... Oui, oui. Ça donne aussi l'idée que notre sécurité n'est pas... Il y a quelques faiblesses aussi, hein, au sein donc de la sécurité nationale. Mais vous savez, il y a également un élément que nous ne devons pas occulter, c'est nos frontières. Nos frontières sont tellement poreuses que lorsque vous passez aujourd'hui, vous prenez peut-être Tablebo, vous passez par Gboto, vous arrivez, hein, vous prenez peut-être la route de Tokli et tout ça rapidement, vous traversez juste un fleuve là et puis vous êtes au Bénin. Hein, même si nous prenons du côté même du Ghana, hein, il y a des passerelles, vous pouvez même à moto ou à un Z, hein, vous quittez le territoire togolais, après quelques minutes, vous êtes sur le territoire ghanéen.
Il y a assez de bits
et tout ça. Mais au-delà même des bits officiels comme bit 9, la frontière officielle, oui. Il y a d'autres passerelles là, au niveau de Dijolé, vers Adido Gomé, tout ça, Dinamoto. Vous prenez des voies rapidement. Vous êtes sur le territoire.
Mais il faudrait ajouter, je coupe pas la parole. Il faudrait ajouter qu'il y a d'autres qui sont même Ghanais et Togolais à la fois, puisqu'ils dorment ici. Le matin, ils font leur activité au Togo. Le soir, ils rentrent au Ghana. Donc, finalement,
c'est l'intégration.
Ça, c'est oui. Donc, je crois, c'est cela. Ils ont leur véhicule ici au Togo et puis ils vont dormir la nuit au Ghana. Le lendemain, ils reviennent prendre le véhicule pour aller au boulot. Donc, il y a quand même c'est tout ça là. Mais en parlant donc du Bénin, oui, il y a tellement. Donc, je ne suis pas sûr. Pour l'instant, je doute. À moins ceux qui aient un communiqué donc du procureur pour nous situer véritablement qui sont passés par la frontière et Togo-Bénin. Je doute parce que je me dis que ces personnes-là, peut-être qu'ils ont pris par ces frontières poreuses-là et rapidement, parce qu'ils ont déjà le colis avec eux, ils peuvent peut-être le mettre dans son état second, dans un état d'inconscience pour faire traverser la frontière. Donc il y a tous ces paramètres-là. Mais il faut, je reviens pour apprécier l'acte, c'est du gangstérisme d'État, c'est du grand banditisme, quoi.
D'accord. Quelle appréciation vous faites maintenant d'ailleurs de cette actualité? Et déjà, quand on prend quelqu'un qui, justement, on connaît sa position, hein, par rapport au régime de Talon, et finalement, on vient arrêter cette personne ici au Togo sans que l'autorité ou les autorités togolaises ne soient informées.
Bon, il faut dire, c'est une carence d'élégance de la part de l'État béninois. Je crois qu'ils ont des têtes pensantes là-bas pour savoir qu'on ne fait pas effraction sur notre territoire comme ça. Ils connaissent bien le droit international. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment irrévérencieux de leur part de s'introduire sur le territoire togolais comme ça, sans l'aval, sans coopération avec l'État togolais. C'est un gros manque de respect. Et la manière dont ils ont procédé, il n'y a pas d'autre mot pour désigner, comme les confrères l'ont fait, c'est du gangstérisme. Ça ne respecte aucune règle en matière de droit international et il faut condamner cet acte-là avec la dernière rigueur. Maintenant, la question de savoir comment ça s'est fait. Et quand je m'appesantis sur le communiqué du procureur de la République, tout semblait être organisé. Puisqu'ils sont venus en véhicule officiel, donc ça a une connotation officielle. Tout est organisé là-bas. Ils se sont introduits sur le territoire. Ils sont venus séjourner depuis le 10 pour commettre le forfait le 12. Donc c'est à croire que tout a été bien ficelé. Ils ont des complices en interne. En témoigne également le communiqué qui a été diligenté, l'enquête qui a été diligentée, qui a permis de mettre la main sur les deux complices en interne ici. C'est à croire que la position de Steven leur était donnée à chaque mouvement. Donc ils ont préparé le coup, ils se sont introduits, ils ont commis le forfait et ils ont vite fait de partir aussi sans qu'on les appréhende en fait. Mais il faut aussi apprécier la diligence de l'enquête qui a été menée par l'État togolais pour mettre la main sur ces complices-là et même citer nommément en fait ces gangsters qui sont venus opérer le forfait pour émettre maintenant un mandat d'arrêt. Je crois que ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne le fait pas autrui. Les États ont des relations qui les lient. Le minimum, c'est de respecter ces relations-là entre ces États. Et c'est en cela qu'on cultive la démocratie, c'est en cela qu'on se respecte. Donc c'est un acte qu'il faut formellement condamner et susciter en même temps l'attention des autorités. La question se pose, comme les confrères l'ont dit, je me suis demandé s'ils sont rentrés vraiment par les frontières normales. On connaît la porosité des frontières, ça c'est un secret de polichinelle. Mais comment se fait-il que des personnes de cet acabit-là s'introduisent aussi facilement dans le pays, viennent séjourner, commettent le forfait, repartent. Là, c'est qu'il y a une faille au niveau de la sécurité et ça, c'est que les autorités même ne sont pas en sécurité. Si un individu lambda comme ça peut rentrer et puis commettre un forfait et partir. Donc, sur cet aspect-là, je crois qu'il faut renforcer vraiment le dispositif sécuritaire au niveau des renseignements également pour savoir. Et quand on élargit un peu sur la question de sécurité en général, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo fait face à un défi sécuritaire.
Tout à fait.
Si on peut avoir des entrées aussi facilement comme ça, je crois que c'est un peu... On doit tirer la sonnette d'alarme pour que le dispositif sécuritaire puisse être renforcé et qu'on coopère également. C'est en cela qu'on a toujours appelé les populations à la coopération. Dès qu'il y a un geste un peu inhabituel, anodin quelque part, la présence de quelqu'un qui vient d'arriver dans un milieu et a des tendances un peu bizarres, il faut dénoncer. Il y a les polices de proximité qui se créent. Les polices sont aujourd'hui partout, les commissariats sont à côté. Il faut dénoncer. Dès qu'il y a une attitude suspecte quelque part, il faut dénoncer. Sinon, aujourd'hui, peut-être c'est un étranger qu'on vient enlever sur notre territoire. Demain, on ne le souhaite pas, mais peut-être ça peut être nous. Donc, c'est en cela que la collaboration est vraiment importante pour les populations. Ne restons pas les bras croisés. Nous faisons face à des défis sécuritaires. Il faut ensemble soutenir les forces de défense et de sécurité. L'État pour mener hors de nos territoires ce genre d'attaque, ce genre de banditisme de grande rue.
D'abord, c'est vrai que Estelle parlait tout de suite alors de manque d'élégance politique ou du moins diplomatique, j'allais dire. Alors, finalement, quand on voit ce tact posé par l'État béninois, alors il y a matière quand même à s'interroger. Hein?
Oui, à s'interroger. Vous savez, c'est un acte prémédité depuis l'État béninois jusqu'à arriver ici. Et ça, c'est avec la complicité également des autorités béninoises parce qu'ils sont arrivés avec un véhicule officiel. Et lorsqu'un véhicule officiel traverse une frontière, je ne pense pas qu'il est obligatoirement soumis aux fouilles comme ça se fait avec les autres véhicules privés. Et ils sont venus, ils ont déjà prémédité leur histoire là, leur crime là, et avec ceux-là, les complices qui sont en interne ici à Lomé, qui sont des Béninois et qui ont aussi des complices togolais. Quand vous lisez, vous suivez le
un Togolais, une Béninoise.
Une Béninoise, c'est ça.
Donc, et ça, c'est qu'on les a déjà demandé de suivre le monsieur, de le filer complètement et à tout moment de faire Donc c'est pour cela que on sait comment le monsieur, le frère Humbi sort de sa maison et à quelle heure il va sortir. Donc on le suivait depuis. Ce monsieur étudiant qui est Zemidja Man, qui servait de transporteur.
Oui, je crois qu'il doit suivre la rigueur de la loi. Parce que oui, il a trahi son peuple.
Oui, oui, il déjà, il a été arrêté.
Oui, il a été arrêté.
Bon, il peut être utilisé, effectivement. Donc, il peut être utilisé.
On sait que tout était préparé et les gens sont venus ici avec leur véhicule, louer un hôtel quelque part, une chambre quelque part pour rester. Et dans la nuit,
il faisait même des navettes avec les personnes sans les dénoncer.
Sans les dénoncer. L'étudiant là, non?
Oui, l'étudiant. Ouais,
donc,
il transportait.
Il aurait servi même de transport, oui. En fait.
C'est ça, cela qui est appelé à la collaboration des gens.
Oui, oui, je suppose que ça dépendra de ce qu'on leur a proposé aussi.
Ouais, et bizarrement, on a trouvé même des menottes de ces gangs-là dans sa résidence.
Là, justement, dans sa résidence.
Parce que quand on l'a enlevé, là, il y avait des gens qui criaient. Je pense qu'il y a des gens, les femmes chez qui il allait acheter quelque chose à vers 22h et quelques là, qui ont commencé par crier, mais quand ils sont partis en trombe, et puis le monsieur, frère, on l'a cagoulé. Lui aussi, il entendait parler qu'on n'a qu'à le jeter à la mer, ou on continue bien, on n'a qu'à l'étrangler et puis il va mourir. Mais finalement, peut-être que c'est son Dieu qui est avec lui. On l'a amené jusqu'à à Cotonou là-bas, où on l'a amené quelques jours plus tard, on l'a présenté devant le juge, et actuellement, il est en prison. Donc, si c'est que les choses allaient être faites dans les normes, c'est que l'État béninois devait choisir et servir la sécurité de l'État togolais, parce qu'il y a ce qu'on appelle Interpol. Quand vous cherchez quelqu'un, il y a l'Interpol, parce que c'est à cela que les polices collaborent. Et on va vous donner toutes les conditions, mais venir enlever quelqu'un sur le territoire sans l'avis même de la sécurité, sans l'avis même de l'Interpol qui existe entre les États, je pense que c'est une provocation que ces gens-là ont fait et ils doivent répondre de leurs actes. Parce que ça, je ne peux pas comprendre, dit que le président béninois n'était pas au courant, qu'il ne sait même pas qu'on est venu faire
quelque chose.
En mission,
en fait, moi. Abbas n'a pas encore fini.
Alors qu'on dit qu'un véhicule est rentré avec des choses officielles, un véhicule officiel. Un véhicule officiel béninois ne peut pas créer sans ne quitter le Bénin,
sans ordre de mission,
pour traverser une frontière et retourner. Même si on parle de sécurité au niveau de choses de frontière, c'est que quand un véhicule officiel traverse la frontière, surtout dans la nuit là, et que le monsieur est cagoulé, c'est qu'il est déjà passé, on l'a enregistré là-bas sur le territoire, à la frontière béninoise et au Togo également. Au retour, on sait les messages, bien les choses qu'il donne comme chose, message, et il passe. Donc aujourd'hui, il faudrait que...
Moi, je pense que ces gangsters ne pouvaient pas agir autre mesure. Parce qu'à partir du moment où leur patron aussi, c'est un gangster, excusez-moi, je le dis, c'est un gangster, ils doivent quand même s'assimiler à leur patron. Donc ils sont venus agir en gangster. Moi, je vais prendre un aspect, un fait que nous devrons comprendre. Je voudrais qu'on relève ça. Même lorsqu'on dit que les gens sont venus, ils ont séjourné 2 jours, ou sont 12 heures, mais ça peut ne pas être vrai.
2 jours, 48 heures.
48 heures, ça peut ne pas être vrai.
Non, c'est le communiqué de Kokeva qui le dit.
Je voudrais revenir sur un fait. Vous savez, Togo, Bénin, les gens viennent ici, ils font leur commerce. Ceux-là même qui sont venus, peut-être ils viennent ici en visite et ils s'assimilent aux populations togolaises. C'est vice-versa. Donc, les gens-là peuvent être ici depuis des mois en train de le suivre. Maintenant, moi, là où ça me fait un peu mal, c'est le confrère ou bien l'activiste qui s'est fait avoir. Qui s'est fait avoir. Parce que lorsque vous savez que vous êtes dans une telle situation, attends, vous ne pouvez pas vous faire avoir aussi facilement que ça. Et surtout que vous êtes à 2 mètres de ceux-là qui sont à vos trousses. Il fallait prendre toutes les dispositions. Et encore.
Non, il a fait confiance à la sécurité togolaise.
Non. Attention, attends, il n'y a pas,
non, de, je y a crois pas que de ce débat, zéro. Je ne te coupe pas la parole, mais il faudrait qu'on se rassure d'abord.
Non, justement, c'est ce que je dis.
Est-ce que quelles sont les dispositions que le monsieur même avait prises
justement,
quand
justement,
il est arrivé sur le territoire togolais?
Voilà. Mais
j'avoue que je n'ai pas cette
information. Mais il y a certains faits, si je le dis, il y a certains faits. Parce que nous sommes Togo-Bénin, comme on le dit, c'est à un pas. Et quand vous fuyez le Bénin, vous venez vous rester au Togo, mais il ne faut pas espérer que vous serez en sécurité à 100%. Il n'y en a pas. Même vice-versa, ça va être la même chose. Il ne faut pas s'assurer. C'est à vous-même de prendre les dispositions pour éviter. Parce que j'ai cru entendre, ou bien j'ai cru lire, qu'il y a quelque chose qui a été servi d'appât, que c'est une dame qui a été servi d'appât à une coiffeuse, à moins que je me trompe.
C'est bien ça, esthéticienne.
On imagine un peu.
Attendez quand même. Lorsque vous êtes dans une situation, vous ne pouvez pas vous faire avoir comme ça. C'est pas possible. Parce que on ne va pas rentrer dans les détails. Et il y a eu d'autres aussi qui se sont fait avoir de cette manière. Et c'est très grave. Donc, pour revenir à ce que nous disons, je dis, lorsque vous voyez ce qui se passe dans la sous-région, et qu'il y a un seul pays qui est cité d'être le métronome au niveau des conflits, au niveau des tensions, je pense qu'il faut traiter ce pays-là comme tel. Nous ne sommes pas en conflit avec la population béninoise. D'ailleurs, comme on le dit, ce sont des frontières qui sont peureuses. On est une population togolaise et population béninoise. Mais je pense que les responsables, les autorités béninoises, comme on l'a dit, elles ont agi en gangster. Et il faut les traiter comme des gangsters. Heureusement, moi, je suis d'accord. Avec certains confrères au niveau du Bénin. Laissez-moi terminer. Au niveau du Bénin, qui traite le sujet de façon responsable et de façon objective. Mais par contre, il y a certains qui estiment que le communiqué du procureur, que c'est de n'importe quoi, c'est de la diversion.
Il y a un qui allait même en parler
de torchon. Je pense que les gens, dans notre métier, qu'on sache quand même être à la hauteur. Parce que nous sommes des journalistes togolais, c'est le même métier que nous exerçons aussi bien au Togo que nos confrères béninois. Et nous savons, dans ces conditions, lorsqu'on doit être à la hauteur, il faut qu'on analyse de façon objective ce que nous disons. Encore une fois, je pense que les Béninois, les autorités béninoises doivent savoir ce qu'ils veulent. Et la population béninoise doit savoir ce qu'elle doit faire pour dégager des gangsters de leur
à la tête
de
leur. Et je peux terminer sur le sujet. Il y a un politique béninois qui demande donc à ceux qui sont cherchés par la justice togolaise de se rendre, de faire confiance à la justice togolaise et de venir répondre de leurs actes. Bon, on verra s'ils auront quand même ce courage.
D'accord, ok. Alors, chers confrères, nous allons quitter le sujet. On aborde un autre sujet. C'est ce sujet concernant surtout la déclaration de la politique générale alors du gouvernement. Il y a des journaux qui sont revenus alors sur le sujet, bien sûr, puisque après l'installation alors du nouveau gouvernement de transition, il y a le vendredi dernier, Madame le Premier ministre et toute son équipe ou l'exécutif togolais qui était devant l'Assemblée nationale, alors pour cette déclaration alors de politique générale, bien sûr. Et Gazelle Info, Estelle, vous titrez sur le sujet, déclaration de politique générale du gouvernement d'Obé 2, un programme axé sur le social. Oui, de par le passé, nous avons appris quand même qu'il y a la feuille de route gouvernementale, le programme est bien sûr alors dans cette feuille de route gouvernementale qui se déroule bien sûr jusqu'en 2025. Et finalement, le programme sera plus axé sur le social, c'est ce que vous dites.
Oui, et il est de tradition que le gouvernement présente un programme général de sa gouvernance devant l'Assemblée nationale au lendemain de la nomination du gouvernement. Donc c'est à cet exercice que Victoire Toméga Dogbé s'est prêté le vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Donc de sa présentation, on retient deux axes principaux. D'abord, elle a présenté un bilan de la feuille de route gouvernementale 2025 qui est à mi-parcours. Ils ont estimé qu'ils sont à 75% de réalisation actuellement, reste 25%. Et ensuite, les projections par rapport à ce qui reste. Donc, maintenant, plus spécialement, elle est revenue sur le social, à savoir les questions de santé, l'emploi des jeunes, la disposition de la disponibilité des intrants pour les agriculteurs et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ce qui a plus attiré mon attention, c'est le fait qu'elle ait reconnu la résilience du peuple togolais, de la population togolaise, en la félicitant d'abord, qui se démerde dans un contexte socio-économique difficile, mais qui essaie de maintenir le cap, et a promis de rectifier le tir, puisque elle a dit ouvertement que par rapport à la campagne des élections du 26 avril dernier, les populations ont exprimé des besoins. Les attentes, les aspirations sont assez fortes, les attentes sont assez fortes. Donc, elle n'a pas une oreille sourde. Donc, elle a promis de prendre en compte ces besoins-là et de continuer par lutter avec son gouvernement ensemble et en collaboration avec toutes les autres instances de la République pour mener à bien la tâche, les objectifs qui leur sont fixés. Maintenant, le deuxième volet va constituer en fait la mise en place des institutions de la République, de la Ve République, et c'est la tâche fastidieuse également de ce gouvernement. Donc, dans l'ensemble, si on va analyser le programme tel qu'élaboré, il y a une grande partie qui est réservée au social. Maintenant, reste à encourager le gouvernement à mettre sur place un système de suivi évaluation. Quand on estime qu'on est à 75% de la réalisation de la feuille de route gouvernementale 2025, je crois qu'il faut faire une pause pour évaluer en fait l'impact de cette politique-là pour voir s'il faut de nouvelles réorientations, comment est-ce qu'on peut réaménager les choses. Puisque une chose est d'élaborer les programmes, une autre est la réalisation, mais l'autre est également de mesurer les impacts sur les destinataires qui sont les populations à la base. Donc il faut faire un break pour mesurer en fait cet impact, s'il le faut réorganiser pour que au soir avril ou 5 mai, pour que le bilan puisse être défendu, pour qu'on dise, avant le début, on était à tel pourcentage, voilà les réalisations concrètes qui sont faites, et voilà les bénéfices pour les populations, on s'en réjouit.
D'accord. Sylvestre, c'est vrai que quand Estelle parlait et annonçait même d'ailleurs la réalisation de ce programme ou de la feuille de route à 75%, tel que le Premier ministre l'a dit, je vous ai vu sourire un tout petit peu.
Oui, je souriais, et puis c'est de bonne guerre, parce que le PM a un discours ambigu. Au même moment qu'elle nous dit qu'elle est à 75% de la réalisation donc de son programme, elle reconnaît quand même que les signaux sont au rouge. Parce qu'elle reconnaît que, oui, les Togolais peinent toujours à trouver le minimum et tout. Et elle dit, elle dit, oui, elle n'est pas sourde aux aspirations profondes donc du peuple togolais. Ça veut dire qu'en réalité, le taux de 75% qu'elle nous donnait, ouais, donc
ça n'a pas d'impact.
Ça n'a pas d'impact. Puisque si elle nous dit, il ne nous reste en réalité que 25%. Donc normalement, on devait déjà sentir donc les effets. Puisqu'elle a dépassé au moins le cap, la moitié, les 50%. Elle est à 75%. Mais elle reconnaît encore, c'est pourquoi je dis qu'elle a un discours ambigu. Elle reconnaît encore que, à 75%, elle devait encore rester, donc elle n'est pas sous nos aspirations, et puis elle reconnaît que les Togolais ont quand même un quotidien difficile. Donc ça va dire en réalité la gouvernance n'impacte pas. Et c'est cela depuis des années en fait quoi. C'est tout ce qui a été fait la dernière fois au Parlement, c'est du déjà connu, c'est du déjà vu. Ce ne sont que des plans réchauffés. On disait dans ce pays le mandat social. Vous savez ce qui m'a marqué dans ce mandat social qu'on a annoncé depuis...
Non, c'est quoi?
C'est le décès donc d'un Togolais. C'est le décès d'Alabi Nourizine. Puisque à peine on a annoncé le mandat social, il y a eu augmentation donc du prix du carburant. Et il y a eu une révolte spontanée. Et malheureusement, ce jeune-là, donc Alabi Nourizine, a perdu sa vie, un jeune de 28 ans. On a tiré sur lui au niveau donc de GTA. Vous vous rappelez, Alabi Nourizine?
Je me souviens.
Oui, donc voilà quoi. Moi, c'est l'image-là qui m'est resté du mandat social. Donc, quand on me parle de mandat social, j'ai peur.
Vous avez peur?
Oui, j'ai peur. Donc, tout ça là, c'est du plat réchauffé, quoi. Il n'y a rien à espérer. Moi, je vous ai dit ça depuis octobre 2020, là, que ce gouvernement a été mis sur place. Je vous dis que je n'espérais rien. Parce que j'ai vu les gens pendant 11 ans, 12 ans au gouvernement. J'ai vu, je connais un peu ce qu'elles peuvent donner comme plus-value. Et donc, elle a été Premier ministre, moi, je l'ai toujours dit. Je suis Saint Thomas, je veux voir avant de croire. Mais pour l'instant, je n'ai pas quand même des signaux qui puissent me rassurer quant à un avenir meilleur.
Vous êtes resté toujours sceptique.
Oui.
Alors, oui, mais Tabouret, c'est vrai que quand on prend une réalisation de 75%, normalement, ça doit être aussi visible et que ça doit avoir d'impact sur les populations.
Non, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'en réalité, 75%, c'est visible. Mais aujourd'hui, je crois que moi, je n'ai pas totalement lu ce que madame la Première ministre a dit. Mais je pense qu'il a dit quelque chose et la consoeur a relevé ça. La résilience du peuple togolais, je crois qu'il faut la relever, c'est très important. Cela ne voudrait pas dire que lorsque Madame la Première ministre faisait sa déclaration de politique générale, elle avait estimé qu'il fallait s'attendre à pouvoir tout faire. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites au-delà de tout. Hein. Il y a quand même un certain nombre d'actes qui sont posés. Mais nous disons que ces actes restent insuffisants par rapport à la demande que nous avons dans le pays. C'est très important. Lorsque je prends, je ne vais pas aller un peu plus loin, lorsque je prends le domaine agricole, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont un peu soulagé les populations, malgré le fait qu'on est résilient. Il y a un certain nombre d'actes qui sont posés. Et aujourd'hui, les populations, lorsque vous allez au niveau de nos agriculteurs, ils estiment que ce qui a été fait déjà, c'est un pas, mais ils attendent encore plus. Aujourd'hui, nous sommes là et nous avons un défi également, le défi sécuritaire. Il ne faut pas se l'oublier. Le défi sécuritaire aussi est un défi très important et il faut concilier ces défis à d'autres défis, aux défis sociaux que nous avons. Maintenant, le gouvernement a la responsabilité de faire en sorte que les Togolais vivent mieux. Et aujourd'hui, il y a un constat. Les Togolais ne vivent pas mieux. On ne dit pas qu'on doit vivre à 100%. Les Togolais, oui, on
vit. Les Togolais survivent.
Non, tu vis. Si tu ne vivais pas,
non,
tu n'allais pas.
Non, on survit.
Non, mais Sylvestre, si tu ne vivais pas, tu n'allais pas être aujourd'hui là où tu es aujourd'hui. Donc, ça veut dire que moi, je te félicite pour ta résilience. Donc, il faut quand même le dire. Le gouvernement a la responsabilité, c'est tout à fait normal, par rapport aux recettes et par rapport à son rôle régalien de faire en sorte que les Togolais vivent mieux. Maintenant, ce qui a été fait, 115%, c'est vrai, Madame la ministre, la Première ministre a reconnu qu'elle n'est pas sourde des appels des populations. Ça veut dire qu'elle écoute, ça veut dire qu'elle apprend des choses, ça veut dire qu'elle est consciente que malgré les 115%, il y a encore du boulot à faire. Et moi, je l'ai dit, il y a encore du boulot à faire parce que on est en contact des populations. Nous voyons comment les populations souffrent. Nous voyons comment, malgré ce qui a été fait, ça reste insuffisant. Certains n'arrivent pas à manger deux fois par jour. Et nous espérons qu'au-delà, n'oubliez pas que le gouvernement aussi est résilient en ce moment, puisque la crise qui frappe aujourd'hui, c'est une crise qui est mondiale. Ce n'est pas que seulement au Togo. C'est une crise qui est mondiale. Il faut en tenir également compte. Mais ce n'est pas quand même une excuse pour que le gouvernement ne puisse pas venir au bout de certains nombres de défis parce que on n'est que 8 millions de Togolais et on peut quand même faire quelque chose.
D'accord.
On peut quand même faire quelque chose.
Donc pour plus que de 2 millions soient à l'extérieur.
Oui, on peut quand même faire quelque chose pour que, même si on ne peut pas faire la totalité, qu'on puisse quand même avoir le minimum dans le pays.
D'accord. Abbas, c'est vrai que Tampa Express, dans les kiosques ce matin aussi, titre sur le sujet Togo, suite de la balade des gens heureux, toujours des anciens discours réchauffés. C'est une interrogation alors du président, une interrogation, pardon, du journal, j'allais dire. Alors, Abbas, est-ce que vous avez l'impression aussi que c'est du discours réchauffé?
Non, pour moi, je ne vois pas ça dans ce sens parce que vous savez, c'est une feuille de route qui a été confiée. Et c'est les termes de la feuille de route qui sont là qu'on a repris. En rentrant au gouvernement en 2020, elle a lu le programme de la feuille de route. Madame le Premier ministre a fait le programme de la feuille de route là pour présenter ce que la feuille de route contenait jusqu'en 2025. Aujourd'hui, on a eu des élections et finalement, bon, on voit que la feuille de route, tout ce qui est dans la feuille de route n'a pas été consommé. On parle de 75%, c'est ce qu'elle a dit, selon madame le Premier ministre, c'est qu'il reste encore 25%. On n'est pas encore arrivé à 2025. Là, on a vu peut-être qu'il y a des projets qui ont été faits, exécutés, la construction des hôpitaux, la construction des centres de santé, la construction des écoles également, le recrutement des enseignants, tout ça là, on a vu ce qui a été fait, ainsi que l'électrification qui a aussi augmenté, et au niveau de l'eau, on a vu le pourcentage aussi que le Togo a atteint.
Donc, mais il y a assez de défis qui restent à relever.
C'est des défis. Il a dit ça dans son discours, qu'il y a des défis à relever parce que les gens ne sont pas satisfaits. Et que, même c'est pour cela que vous avez vu, lorsque les députés étaient en vacances, ils sont allés à la rencontre des populations pour avoir leurs besoins et venir rendre compte. Et nous avons appris que il y a un séminaire, bien il y aura un séminaire gouvernemental à Kara, élargi à ces députés-là qui sont allés dans leur zone pour que les uns et les autres pour que leurs besoins, ils vont venir exposer ça devant le chef de l'État à Kara. Donc je pense que on ne dit pas que tout est rose, même au niveau du gouvernement, c'est que tout n'est pas rose, rien n'a été fait complètement, mais c'est qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait, on dit qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais il reste, il faut accentuer, il faut mettre beaucoup de choses et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Même si on n'atteint pas les 100%, que le Togolais puisse arriver à joindre les deux bouts. C'est ça qui reste. Les gens ne joignent pas les deux bouts. Il y a certains qui disent que ont-ils le diable par la queue alors que le diable n'a plus de queue qu'on tire. Donc il faudrait que le Togolais puisse vivre décemment, avoir tous ses besoins. On remercie le gouvernement pour ces différents projets qui ont été faits. Mais c'est que ces projets, des fois, quand on les fait, il y a certains qui sont chargés de leur exécution qui ne le font pas dans de bonnes conditions. Donc il faudrait qu'il y ait un bilan, un point sur cette situation pour qu'on sache qui a fait quoi et qui est responsable de ce genre de situation.
D'accord.
Et ce qu'on a vu au niveau de l'agriculture, lorsque le chef de l'État a organisé des forats, beaucoup de paysans ont soulevé ce genre de problème parce que le chef de l'État a dit on a financé tel projet. Mais les paysans disent qu'on n'a rien vu.
D'accord.
Donc il faudrait prendre des mesures par rapport à ces circonstances-là pour que les Togolais puissent savoir que les projets qui sont initiés doivent aussi arriver à satisfaire ses besoins.
Merci beaucoup Abbas. Chers confrères, il nous reste encore quelques minutes pour clôturer ce débat, mais je voudrais qu'on dise quelque chose alors sur la nomination des 5 gouverneurs. Vous êtes revenu, je veux bien parler de vous, Taboré, oui. Le messager, vous êtes revenu sur le sujet, vous parlez de décentralisation, 5e République, fort nomme 5 gouverneurs de région, et nous l'avons tous ensemble appris, il y a ces 5 régions qui ont leur gouverneur, sauf la région centrale. Justement, la région centrale. Alors, on dirait que c'est un grand pas vers la décentralisation complète.
C'est un grand pas vers la décentralisation. Je crois qu'il faut le noter. Donnons à César ce qui est à César. Parce que c'est ce qui avait été dit concernant la décentralisation, le processus. Aujourd'hui, il y a les nominations des gouverneurs et ça va contribuer également à la mise en place d'un certain nombre d'institutions. N'oubliez pas que on est en train de mettre en place le Sénat, on va mettre en place également c'est la Chambre, non ?
La Cour de cassation,
et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un processus et il faudrait l'apprécier à sa juste valeur. Maintenant, il faudrait également prendre les dispositions pour que ce qui est en train d'être fait ne soit pas bousculé par autre chose. Et moi, je pense que la nomination de ces 5 gouverneurs augure quand même dès le lendemain meilleur. Maintenant, il faudrait quand même, il y a des, comment appelle-t-on, les sujets sur lesquels ces gouverneurs doivent travailler. Il faudrait que les populations sachent pourquoi les gouverneurs. Donc, dans ce sens, moi, je pense qu'il y a un travail aussi qu'il faut faire. Parce que quand vous posez la question...
Un travail de sensibilisation.
Oui, vous posez la question à un citoyen lambda, il y a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que un gouverneur. Qu'est-ce qu'est le rôle d'un gouverneur? Qu'est-ce que le gouverneur doit faire? Donc, je pense que au-delà de tout, ce qui a été dit dans le processus de mise en place d'institutions concernant la décentralisation, ça fait un pas. Mm. Ça fait un pas avec la nomination de ce gouverneur. Sauf que il reste au niveau de la région centrale qui n'a pas été fait. En tout cas, on n'est pas dans les secrets des lieux. On espère aussi que ça va venir également pour que le travail puisse être fait. Mais on n'est pas trop désormais de la population.
Oui, d'accord. Est-ce qu'on aurait nommé quand même tout en même temps?
Oui,
dans l'ordre normal des choses.
Où est l'urgence aujourd'hui donc de donner certains noms et de laisser une région? Où est l'urgence aujourd'hui? Mais qu'ils attendent, s'ils ont donc tous les gouverneurs, mais qu'on annonce aujourd'hui, on a donné
Sylvain,
toutes les régions.
C'est toi qui pense qu'il n'y a pas urgence. Celui qui dirige,
s'il te plaît.
Si Chabot ne met pas d'urgence là, ceux qui ont été nommés là depuis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc je crois qu'on devait attendre à avoir donc le nom de tous les gouverneurs et donc et de faire un décret ou comme on l'a fait la dernière fois. Et puis maintenant on a au moins 5 régions sans la région centrale. Mais c'est une discrimination bien quoi?
Donc on
attend de trouver un général pour le mettre à la place là-bas. Non, je crois que il faut, quand on veut faire les choses, il faut attendre le bon moment pour le faire. Il n'y a pas d'urgence, rien ne nous pousse. Attendons, trouvons donc tous les... Qu'est-ce qui vous pousse?
Atteindre le 5 mai 2025.
Mais le 5 mai 2025 est loin.
Si le temps nous pressait, il faudrait quand même.
Il n'y a pas d'urgence. Je crois qu'il ne faudrait pas gérer un pays de cette manière-là. Si il faut prendre le temps, il faut prendre le temps. Je vous dis, rien ne nous presse à donner donc le nom de quelques gouverneurs et à laisser une région. Il faudrait prendre le temps à voir tout le monde et donner. Donc, aujourd'hui, bon, je ne suis pas ceux de la région centrale. Est-ce qu'ils ne sont pas togolais?
Non,
je crois qu'il faut prendre le temps pour mieux faire les choses.
Non, c'est vrai.
Soyons un peu élégants. Il ne faut pas attirer des polémiques inutiles.
Je suis parfaitement d'accord qu'en présence de la publication d'une liste qui omet seulement la région centrale sans aucune explication, ça laisse lieu à des supputations, des interprétations. Je suis parfaitement d'accord. Mais il ne faut pas aller tirer sur certaines ficelles pour ouvrir des débats inutiles et tout. Au moment opportun, ça va se faire. On ne sait pas pourquoi ça a été décidé comme ça. Du coup, on va souhaiter que ça se fasse le plus tôt possible, vu que, justement, c'est ce que j'ai dit. Tout le souhait qu'on doit avoir, c'est que ça se fasse le plus tôt possible, vu qu'il y a des urgences qui viennent pour régler ça. Mais on ne doit pas aller tirer sur certaines ficelles et tout. Donc, ça vient en fait parachever, en quelque sorte, déjà le processus. J'ai la parole, s'il vous plaît.
C'est Estelle qui a la parole. Estelle, vas-y.
Je dis, ceci vient parachever progressivement le processus de décentralisation.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Estelle. Merci beaucoup. Abbas, rapidement, on sait que c'est un processus, enfin, c'est le processus même d'ailleurs de la décentralisation qui continue. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le rôle alors des gouverneurs déjà dans ce processus?
Le rôle, nous l'avons mis dans notre édition d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez.
Je ne l'ai pas avec
le
moi.
Le gouverneur, oui. Avec un rôle étendu à plusieurs dimensions importantes, nous avons vu parce que... je suis en train de parler.
Non, mais vas-y, s'il te plaît. Il y a le temps qui nous talonne, s'il te plaît.
Si tu veux avoir les dimensions, il faut aller acheter le journal. Donc, le problème, c'est que vous savez, nous sommes en train de mettre un processus de décentralisation complet. Il y a les conseillers régionaux qui ont été élus. Or, pour les mettre en place... C'est les gouverneurs là qui doivent être élus et qui vont convoquer les conseillers régionaux pour élire le président du conseil régional. Donc c'est dans ce sens que ceux-là ont été nommés. Et également, problème sécuritaire oblige, nous devons approcher l'administration vers les administrés pour corriger tout ce qui se passe dans les régions, surtout dans la région des savanes, pour régler, pour que la population sache que il y a des gens qui sont à côté de nous, à qui on peut soumettre nos doléances dans les médias. Donc c'est dans ce sens, dans ce souci, que le Conseil des ministres a nommé ses conseillers régionaux et ses gouverneurs.
Ils sont des représentants directs au niveau des régions.
Ils travaillent sous l'administration du ministère de l'administration territoriale.
Tout à fait.
Et c'est eux qui coiffent, c'est eux qui sont l'intermédiaire. Tous les projets qui vont se faire au niveau des régions, c'est eux qui le font et ils soumettent le projet au niveau des ministres concernés. Parce qu'ils représentent en même temps tous les ministres concernés dans les régions. S'ils veulent engager une activité, un projet, c'est que le ministre concerné est saisi pour envoyer le projet et appuyer. Donc, dans ce sens, ils ont beaucoup un rôle étendu.
Tout à fait. Nous reviendrons là-dessus, Abbas, merci. Et ils sont même d'ailleurs aussi des gens qui veillent sur la légalité.
Mais la légalité, dans les régions.
Voilà. Merci beaucoup, cher confrère, puisque nos compatriotes s'impatientent aussi à entrer en ligne pour aussi s'impliquer ou partager ce plateau avec nous depuis chez eux, c'est-à-dire arriver à participer à ce débat. débat. Et donc, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Après, nous donnons la parole à nos auditeurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous l'avez constaté tout au début, alors de cette émission, vous ne nous suiviez pas parce que nous avions eu alors quelques pannes techniques alors sur bien sûr notre antenne ici à Lomé. Et donc maintenant, je pense que tout est rentré dans l'ordre et maintenant vous nous saisissez, vous nous écoutez. Hein, vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 ou le 91 36 63 75. Nous avons notre premier auditeur. Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour Basile. Comment vous allez?
Vous n'étiez plus là. Moi, j'ai trouvé que c'est fini comme ça.
Comment ça?
La radio travaillait depuis un certain moment. Non, je ne pense pas.
Non, mais justement, nous l'avons annoncé que nous avions eu un souci, une panne technique, et donc beaucoup de gens nous suivaient déjà sur nos différentes plateformes digitales.
Ah, d'accord. Non, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, ce que moi, je c'est toujours la même chose que je dis. Et quand les dirigeants qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, je demande toujours ceux qui viennent expliquer là, ils sont les porte-parole. Ça là, vous prenez ça mal, mais vous prenez ça en mal, mais il n'y a pas un autre mot pour vous poser la question. Est-ce que vous voyez? Moi, il n'y a pas quelque chose que. Que le gouvernement ou bien ces dirigeants vont faire, et moi je vais trouver ça bien parce que nous on subit les méfaits de leur gouvernement. Mais peut-être que vous qui venez et vous ne faites que penser du bien de ce gouvernement, vous n'êtes pas de notre côté. Ça veut dire que vous trouvez tout le bien que ce gouvernement fait. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un pays? C'est tout comme une petite boutique qui a mis dehors et puis tu gères, c'est comme ça qu'on gère le pays? Et on va être, ça va nous faire sortir de quoi un jour. Merci.
Merci Basile pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75 et intervenez, vous pouvez nous appeler sur les deux numéros pour intervenir dans ce débat que nous animons bien sûr, un débat citoyen. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô.
Oui, alors bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va, Didier?
Oui, Didier, comment ça va?
Ça va, ça va.
D'accord, allez-y.
Ah ouais, bonjour à mon ami Abbas. Mm. Abbas, bonjour.
Bonjour. Bonjour Didier.
Allô?
Oui, bonjour.
Ouais, comment ça va?
Ça va bien, au rang grâce.
Ah, vous avez manqué beaucoup, hein?
C'est vous qui nous avez manqué parce que vous ne venez plus intervenir.
Parce que vous avez refusé de répondre à mes questions, là. C'est pour cela que je ne...
Tu ne m'as pas posé de questions?
Ouais, non. La dernière fois, vous avez dit que vous ne répondez pas aux questions de militants.
Ah, merci. Bon, prochainement, je vais répondre.
Ok, merci. Ça va. Bon.
Oui, disais, allez-y.
On n'a pas pu suivre toute l'émission. On a suivi qu'elle avait la fin.
Tout à fait. Tout nous excuse pour
je
cela.
Je comprends, mais Madame Estelle, là. C'est-à-dire, il est d'accord que ce qui est fait n'est pas bon sur la nomination du gouverneur. Il est d'accord que ce que le gouvernement a fait n'est pas bien. Mais elle veut pas qu'on critique, qu'on appelle les bien critiqués. Mais c'est cette façon de faire que le gouverneur. Parce qu'ils sont des dieux, ils sont des rois, nous sommes leurs sujets. C'est au Togo, si le sujet est blanc, disons qu'il est blanc. Parce qu'on nous n'avons pas appelé quelqu'un à devenir président, à devenir ministre, à devenir député. C'est eux-mêmes qui se sont présentés de libre de leur propre volonté, et nous les avons élus. Donc, permettez-nous de les critiquer par le mot que nous voulons. Ils ne sont pas leurs sujets. Ils ont voulu être président, député de leur propre gré. Donc, s'ils font quelque chose qui n'est pas bien, faut le critiquer. Je voulais poser la question, Madame Axel. Dans ce contexte de ce que c'est depuis le PNCJ 90, de 2000, comment, de l'avènement de PNCJ jusqu'à cet instant, ou parce qu'il est normal qu'on nomme le gouverneur sans nommer le gouverneur de la région centrale, vous trouvez normal en tant que Togolaise? Merci beaucoup.
Merci, Didier, pour votre intervention. La question a été posée. Bien sûr, je pense que Estelle vous a écouté. Elle va répondre tout de suite. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler et réagir. Alors, au Club de la Presse, alors de ce mercredi. Alors, Estelle, si, du moins, ça, si nous attendons même d'ailleurs les auditeurs, vous pouvez répondre à la question alors de Didier?
Oui, peut-être qu'il n'a pas suivi l'émission, comme lui-même il le dit. Sinon, j'ai été la première ici à condamner le fait qu'il n'y a pas d'explication, donc ça laisse lieu à des supputations. Sauf que mon confrère allait sur un terrain glissant. C'est là où j'ai demandé, il ne faut pas qu'on crée des polémiques inutiles, mais faisons des critiques constructives en demandant juste qu'il y a une nomination avec diligence pour faire face aux urgences qui s'annoncent, tout simplement.
Et c'est, je suis la première
à critiquer.
Voilà, je reçois cet auditeur. Allô?
Oui, bonjour le plateau.
Bonjour, comment vous allez?
Au calme. C'est Eddy le pasteur.
Eddy, oui, allez-y.
Oui. Bon, Pascal.
Eddy, allez.
La fois passée, j'avais dit que les policiers, au niveau de l'église Baptiste, là, la nuit, ils prennent leur moto, ils se promènent pour prendre de l'argent avec les gens. Tout le temps, c'est comme ça, ils font.
Eddy.
Oui.
Oui, mais voilà, le souci, c'est quoi?
Ouais, c'est ce que moi, je voulais dénoncer.
Et vous voulez dénoncer quoi?
Non, les policiers, au niveau de l'église Baptiste, là.
Oui.
À chaque nuit, leur travail, ils prennent leur moto, ils se promènent pour prendre l'argent chez les gens et ils vont sur le marché de terrain d'adhérence pour rester là-bas. Si tu pars, tu n'as pas pu porter le casque, on te poursuit bêtement.
C'est où?
Oui, mais vous parlez. Eddy?
C'est au niveau de l'église Baptiste.
Église Baptiste? Quelle église Baptiste?
Non, le du consulat du Sénégal.
Non, le de?
Non, celui-là du Sénégal.
Ah, d'accord. Vers Adéoui, ouais. C'est ça.
Adéoui.
Non, d'accord. Ok, c'est compris. C'est compris. Alors, bonne journée. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sûr, c'est deux numéros que vous pouvez réagir. Oui, Tchabouré.
Oui, je voudrais revenir par rapport à ce que l'autre, je crois, c'est qui a posé Didier? La question. Didier a dit, tentant d'accuser SL. Vous savez, nous, on fait les débats. On fait les débats et puis la plupart du temps, si les gens peuvent quand même avoir les mamités de nous suivre, attentivement, c'est vrai, il a dit quelque chose et on peut l'excuser parce qu'il dit qu'il n'a pas suivi la totalité de l'émission. Sinon, en réalité, ça ne l'a pas dit. Et c'était un débat, un communé par rapport à choses. Et en fait, le fait de nommer un gouverneur au niveau de la région soit ou pas, nous, on n'est pas dans les secrets des dieux. Nous, ce sont des faits. Nous, on a fait le constat. On ne sait pas pourquoi. Si on veut le savoir, peut-être on va faire nos investigations auprès de qui, nous savons. Mais je pense que c'est le chef de l'État seul qui est...
Tu vois, si tu le permets, je vais te couper. Oui. Allô?
Bonjour, comment ça?
Bonjour Richard, comment vous allez? Décidément, nous avons toujours de difficultés à écouter Richard. Allô?
Une fois, comme une crise, au sein de la ville de Yaro, et de l'Union. Ça, ça nous manque de respect à nos pays. Sincèrement. C'est pas du tout, évident. Pendant que je pense que non, c'est un bon président, c'est quelque chose de ici. Non.
Décidément, Michel, je ne sais pas. Nous n'avons pas de bon retour hein, de Richard par rapport à son élément sonore, puisque je pense tout simplement qu'il y a un peu d'écho à son niveau, et ce qui fait que nous ne l'écoutons pas bien. Alors 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. décidément, il n'est pas en ligne. 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce mercredi. Oui, Tabouret, vous étiez en train de dire quelque chose.
Oui, je disais qu'on n'est pas quand même dans les secrets des dieux parce que aujourd'hui, tout ce qui confère les prérogatives d'une nomination d'un gouverneur, je pense que c'est le chef de l'État qui l'a.
Il y a le dernier auditeur qui se signale, je vais rapidement l'avoir. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom c'est...
Excuse-moi, je salue tout le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Bonjour, Pascal.
Oui, bonjour. Votre nom c'est...
Vous m'entendez?
Oui, oui, moi je vous entends très bien. Il semble que vous n'avez pas de retour. Votre nom c'est...
Allô?
Ah, décidément, il n'a pas de retour aussi. Et il semble qu'il n'a pas un poste récepteur à côté pour nous écouter, avoir le retour comme cela se doit. Voilà. Là, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce jour. Alors, Tabouret.
Non, je disais que, comment l'appelle-t-on, le solution est seul qui a le secret de ce qu'il fait.
Tu l'as déjà dit.
Oui, comme il le fait, il l'a nommé. Donc, je pense qu'on s'en tient à ça. Je voudrais prendre l'intervention du premier auditeur. Je sais pas.
C'est Basile.
Basile. Oui. Basile, oui. Basile, on a un problème avec Basile. Et j'espère qu'il nous écoute. Et nous allons essayer de rectifier le tir. La plupart du temps, il a tendance à nous accuser que nous venons pour défendre quoi que ce soit. Et je pense qu'on doit faire quand même la part des choses pour savoir le rôle, je ne sais pas si on sait, le rôle d'un journaliste que nous sommes et le rôle des gouvernants. Nous, on vient ici, c'est sur les faits que nous débattons. Et c'est sur ça que nous débattons. Sinon, on ne vient pas pour défendre quoi que ce soit. On vient sur les faits, on se base sur les faits, on fait des analyses. Et il n'est pas obligé, lui également, parce que nous sommes dans une démocratie, de suivre ce que nous développons ici. D'abord, la preuve, c'est que nous sommes ici, chacun a son opinion et chacun dit ce qu'il pense. Maintenant, quitte à l'opinion de se faire une idée des débats que nous faisons. Donc, nous disons que les gens, lorsque les gens nous suivent, qu'ils aient l'aimabilité d'être calmes et de nous suivre attentivement pour écouter ce que nous disons. Et là, ils comprendront ce que nous sommes venus faire ici en tant que journalistes. Donc voilà ce que je voudrais dire.
Merci pour cette précision.
Moi, c'est très important. Je voudrais donner un carton.
Non, c'est plutôt une note.
Maintenant,
ça a évolué.
Ça a évolué.
Oui, justement. C'est une note.
La note
zéro,
à qui?
C'est de 0 à 10.
À qui?
Oui, mais à qui vous voulez, bien sûr. À n'importe qui.
Moi, je donne une note de 12 à un ex-ministre.
Son nom, c'est...
On peut donner son nom?
Oui, on peut donner son nom.
Mais l'ancien ministre de l'enseignement technique...
Audin?
Non,
Audin,
l'enseignement supérieur.
Bro?
Majesté
Iou. Oui, Majesté Iou, justement, parce que il a posé des actes, entre-temps, je n'ai
vous
pas...
Vous lui donnez combien d'abord?
Non, je donne 12. 12 sur 10?
Oui, non.
Ah. Non,
sur 10, donc ça veut dire que...
Non, je crois que...
C'est 6?
Non, ça fait...
C'est 6?
Non,
8 sur 10?
8, c'est pas mal, 8.
8?
8, parce qu'il a eu à poser un certain nombre d'actes dans sa localité, dans la zone où il est, et ça a quand même profité à la population. C'est vrai, aujourd'hui, il n'est plus au sein du gouvernement, mais c'est bien quand même qu'on puisse en parler. Et si... Vous avez visité la zone dans laquelle il est et vous avez vu comment les populations souffraient, mais il a eu à apporter quand même un plus. Et puis aujourd'hui,
et c'est quoi ce plus?
Oui, ce plus, c'est le fait quand même d'arranger les zones. Il y a au niveau des dépotoirs, les routes qui ont été rechargées dans certains nombres. Donc c'est bien quand même compliqué. Alors, moi, je n'avais pas voulu. Aujourd'hui, il n'est pas au gouvernement, mais je suis libre quand même d'en parler parce que je ne voudrais pas faire des jaloux. C'est pourquoi je m'étais tué. Donc franchement, moi, je lui donne 8
sur 10. D'accord. Merci. Oui, Sylvestre.
Oui, bon, en fait, moi, je voulais revenir un peu sur le sujet des gouverneurs. Oui, c'est un fait qu'on a tous les gouverneurs sauf la région centrale. Et c'est normal que certains peuvent se demander pourquoi nous avons fait quoi. C'est normal que, c'est pourquoi je disais entre-temps qu'ils vont se demander, est-ce que nous ne sommes pas togolais? C'était une interrogation, c'est pas un terrain glissant. Parce que si tout le monde a eu son gouverneur sauf nous, on a fait quoi?
c'est normal qu'ils puissent quand même se poser cette question-là. C'est pourquoi je disais à l'époque, il n'y a rien de nous presse, il n'y a pas une urgence. Et même s'il faut le faire, je crois que donner un gouverneur à la région centrale, c'est pas de loi de la mer à boire. Donc, on pourrait le faire. Hein, un État a tous les moyens. Il y a des gens compétents, il y a des têtes bien faites qui puissent jouer ce rôle-là. Mais pourquoi le faire laisser une région? Ça peut donner l'image donc d'une discrimination et tout. C'est normal. Ah, mais ça me croyait bien aller. Vous voyez? Non, c'est pourquoi je dis que normalement, si cela doit être fait, c'est pour tout le monde. Maintenant que c'est pas fait, le gouvernement devait au moins communiquer, donner les raisons hein, qui sous-tendent hein, le fait que eux n'ont pas encore donc de gouverneur. Je crois que c'est la meilleure manière de faire les choses. Maintenant, je donne ma note. Je veux donner 7 sur 10. Hein. C'est pas 7 sur 10 à la police nationale parce que aujourd'hui il y a une police donc du littoral. Il y a une police du littoral au niveau donc de la plage. Il y a des hommes en uniforme qui surveillent la plage, bon, aussi contre les petits bandits et tout, hein, les de petits enfants qui peuvent valablement se jeter dans la mer et tout ça. C'est une très bonne chose. Pourquoi j'ai pas donné 10? Parce que pour l'instant l'effectif n'est pas ce que je souhaitais. Il faudrait qu'on mette beaucoup plus d'effectifs. Parce que vous allez les week-ends à la plage avec tout ce qu'on a, ces petits voleurs aussi de portables, d'autres sont nombreux. Donc il faudrait qu'on ait un effectif assez considérable hein, pour suivre tout cela. Mais c'est déjà un bon pas. Cette police du littoral, qu'ils ont des moyens roulants, hein, qui traversent le sable et tout ça. C'est joli, c'est beau. Mais pourvu qu'on ait un effectif considérable. D'accord.
Donc c'est un début appréciable.
D'accord. Donc c'est en attendant de voir si on peut monter un peu.
Voilà.
Mais si on doit monter, ce serait juste un point.
Nous souhaitons également même d'ailleurs qu'on ait aussi des polices, avoir une police municipale. On en a besoin
oui,
aussi.
Oui, à la longue, je crois que ça va venir.
Justement, nous ne sommes qu'au début alors de la décentralisation. Voilà. Alors oui, Estelle.
Non, je l'ai déjà dit, mais je vais encore le ressasser. En fait, les critiques, qu'elles soient constructives, j'ai d'abord condamné le fait que, en présence du fait qu'on a nommé 5 gouverneurs et que c'est la seule région des centrales qui est et qui n'est pas encore nommée, ça laisse lieu à de la spéculation. Mais il ne faut pas que ces spéculations se fassent sur des terrains glissants, je le répète encore, ayant des propos conciliants pour ne pas donner lieu à d'autres interprétations. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas permis qu'on critique le fait que ça ne soit pas fait. Puisque je suis allée jusqu'à dire qu'il n'y a pas de raison explicite qui a été donnée. On a juste constaté qu'il n'y a pas de gouverneur qui soit nommé pour la région centrale. Et en absence de cette nomination, en l'absence de raison, ça ne peut que donner lieu à des spéculations. C'est normal. Mais que ces spéculations se fassent de manière constructive. Le souhait le plus ardent, c'est que le gouvernement fasse cette nomination le plus tôt possible. Puisqu'il y a des urgences en vue, on vient de les énumérer, pour ensemble mener à bien la gestion du pays, c'est tout. Donc, que les auditeurs prennent le temps quand même de bien nous écouter avant de venir intervenir sur ce qu'on a fait. Nous ne faisons que des analyses sur des informations disponibles et ça, c'est pour le bien de tous. Maintenant, il est de bonne foi que je revienne un peu sur une information. J'ai dézingué la dernière fois la CET. Donc, il y a une petite amélioration dont je reviens aujourd'hui les féliciter et je leur donne.
Et vous leur donnez combien?
6 sur. La dernière fois, j'ai donné 4 sur.
Justement,
sujets.
Oui.
Donc, je donne.
Cette fois-ci, vous donnez 6.
Il y a une petite amélioration. Il y a une petite amélioration.
Non, mais c'est sa note. Saboureux, c'est la note d'Estelle.
Je donne
c'est
6 Estelle pour le donne. Moment en voilà. Attendant de voir.
Merci.
Si on veut revenir
merci.
En bas, on reviendra
merci
encore
Estelle.
En bas.
Merci Estelle. Abbas, rapidement, nous allons finir. Votre mot de la fin.
Oui, bon, moi. Pas grand chose à dire pour dire que faut pas que quand nous sommes ici, quelqu'un pense que on doit dire ce que lui pense. Nous venons donner les informations. On fait des analyses.
Et on fait des analyses, bien sûr, sur l'actualité.
L'actualité togolaise et tout ce qui se passe dans le monde. On n'est pas là pour dire que ce que tu penses là, nous, on doit être obligé d'être dans ta tête et déclarer ça. Donc, par rapport au gouverneur, je pense que je vais donner leur.
Le rôle, la responsabilité.
La responsabilité, ça urge.
Voilà.
Le manque de choses de gouverneurs dans la région centrale, je ne pense pas que ce soit un truc encore à critiquer. Parce qu'il y a des conditions. Je pense qu'il y a un problème qui s'est posé à ce niveau-là. Seulement, on dit que c'est le manque de communication. Moi, je sais aller à les informations.
D'accord. Rapidement, votre note, Abbas, s'il te plaît.
Pourquoi ce n'est pas encore fait?
S'il te plaît, votre note.
Je sais.
Votre note,
je vais vous dire ça.
D'accord, votre note, c'est quoi?
Non, je pense que je dois revenir sur cette histoire de feu tricolore là. je vais donner zéro, pointé.
Zéro?
Je ne sais pas si c'est à la Dagle ou bien aux communes.
Dagle, zéro,
parce que le phénomène devient très dangereux.
Tout à fait.
Et très inquiétant dans toute la capitale.
Ok, merci beaucoup Abbas. Merci Taboré d'être passé dans cette émission. Nous espérons vous retrouver déjà le mercredi prochain. Hein. Merci à Sylvestre d'être passé dans cette émission. Et Estelle, merci à vous d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Toutes nos excuses hein, pour le fait que vous ne nous avez pas suivis tout au début de l'émission, compte tenu alors de la panne technique que nous avons sur notre antenne. Mais maintenant, je pense quand même que tout est rentré dans l'ordre. Merci hein, pour votre fidélité d'écoute. Demain, mais jeudi, nous serons avec un membre du gouvernement hein, pour le débat et qui nous expliquera aussi un certain nombre de choses alors sur la feuille de route gouvernementale. Merci surtout à vous qui nous avez suivis. Michel Tomega a assuré la mise en ligne. Jérôme Dakoucha, je suis Pascal Lussou. Je vous retrouve demain. Au revoir.